Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi. Après-midi sous le signe du voyage. Comme chaque jour, nous nous immergeons dans une vie. Aujourd'hui, c'est une vie remplie d'étoiles, de planètes. Comme chaque jour, nous découvrons le parcours d'une personne qui a réalisé son rêve, qui enfant n'a pas rêvé d'être astronome. Il avait 10 ans quand sa vocation, telle une aurore polaire, s'est imposée à lui. Je reçois Jean Lichtenstein, astronome au laboratoire de planétologie de Grenoble.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Jean Lichtenstein. Oh, j'avais dit, j'arriverais pas. Jean Lichtenstein. Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous appeler Jean hein, pour le reste de l'émission. Alors votre métier, on l'a vu, vous amène, on va le voir, vous amène à beaucoup voyager, notamment dans le Grand Nord, en Laponie, au Spitzberg. Et vous venez de remporter là le premier prix d'Europlanète, un prix qui récompense vos actions de sensibilisation du grand public à la planétologie. Et rendre accessible votre savoir au plus grand nombre, c'est bien une de vos préoccupations essentielles, Jean.
Oui, ça fait partie d'ailleurs des missions de la recherche publique, évidemment, en plus de faire des découvertes, qui est quand même le cœur de notre métier.
Et ça vous arrive, on le verra.
Merci.
Mais on dit que les chercheurs ne trouvent pas, mais ce n'est pas vrai, on fera la démonstration du contraire. Et donc, oui.
Donc, les États-Unis ont compris depuis longtemps qu'il fallait s'impliquer dans la communication grand public, dans la sensibilisation grand public. En Europe, c'est quelque chose qui est un peu plus récent. Et nous autres qui faisons de la planétologie en Europe, on s'est organisés dans un groupe qui s'appelle assez banalement Europlanète. Et ce groupe a décidé d'attribuer tous les ans un prix à un chercheur qui s'engage beaucoup dans de la communication grand public. Et pour le premier prix, ils ont décidé de me le donner. Voilà, c'était moi le lauréat pour un simulateur d'aurore boréale que j'ai fabriqué.
Oui, alors c'est un système expérimental justement qui permet de simuler le phénomène des aurores boréales. Alors vous allez nous expliquer c'est quoi une aurore boréale ?
Alors, l'aurore boréale, elle part du soleil. L'aurore boréale, c'est un lien entre le soleil et la Terre, et la haute atmosphère de la Terre. L'aurore boréale, c'est des lueurs qui apparaissent dans le ciel. Il faut qu'il fasse très, très, très nuit, très, très noir. Il faut être près du pôle magnétique, près du pôle nord magnétique ou du pôle sud magnétique de la Terre. Et là, s'il n'y a pas de nuages, pas de lune, qu'il n'y a pas d'éclairage urbain, pas de phare de voiture, rien, et qu'on lève la tête, alors on a des chances d'apercevoir dans le ciel des lueurs qui s'agitent dans tous les sens, qui sont le plus souvent vertes ou rouges, mais qui peuvent être mauves, jaunes, blancs, pâles, avec tout un tas de couleurs qui peuvent changer très 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 rapidement. Et de quoi il s'agit ? Eh bien, le soleil, c'est une étoile. Et une étoile, alors nous, on a l'habitude de voir que ça brille, et ça brille parce que ça produit sa propre énergie. Et cette énergie, la plus grande partie de l'énergie, elle est émise sous forme de lumière. Mais toutes les étoiles produisent en plus de la lumière un flot permanent d'électricité. Et cette électricité s'en va dans l'espace, et à l'approche de la Terre, elle est happée par le magnétisme de la Terre, elle pénètre dans l'atmosphère près des pôles magnétiques, elle pénètre dans l'atmosphère très très rapidement. Et là, elle heurte l'atmosphère. Puis ça fait comme dans les dessins animés. Vous savez, quand on tape quelqu'un, un grand splash. Puis la personne se met à bouger dans tous les sens, puis revient tout droit. Et bien là, ça fait pareil. L'atmosphère, heurtée par l'électricité du soleil, se met à bouger dans tous les sens et puis revient à l'état calme. Et quand elle revient à l'état calme, elle rend l'énergie qu'elle a reçue à cause de la collision sous forme de lumière. C'est une aurore. Et ça se produit quand même à très haute altitude dans l'espace. L'espace, on a l'habitude de définir ça comme ce qui est au-delà de 100 km d'altitude. Et ben c'est là que se produisent les aurores boréales.
Et donc, c'est pour ça que vous allez dans le Grand Nord, mais on peut en voir en France aussi.
Alors, en France, on a statistiquement 2 chances par an d'en voir à Grenoble. Mais pour les voir, il faut, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de lune, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, il faut être en dehors de Grenoble, en dehors de tout périmètre
urbain.
C'est clair,
oui, c'est un peu éclairé.
Alors,
Grenoble.
Voilà. Il y a que les astronomes amateurs qui envoient. Et quand ils envoient, ils en photographient. Et puis parfois, ils m'en envoient parce qu'ils savent que j'aime ça et qu'on s'entend très, très bien avec les astronomes amateurs locaux.
Alors, vous avez mis au point, Jean Lichtenstein, Planète Terella. Hein, c'est pourquoi vous avez reçu ce prix. Alors, ça se présente comment ?
La Planète Terella, c'est dérivé d'une manip qui a été faite par un chercheur Birkeland il y a un peu plus de 100 ans, un peu plus d'un siècle. Et c'est avec cette manip qu'il a démontré de quoi étaient faites les aurores boréales. Et ce qu'il a fait, c'est prendre une espèce d'aquarium, on dit une enceinte, c'est pas très important, il l'a retourné et dedans il a fait le vide. Pas un vide complet, un vide à peu près comme celui qui règne à vers 100 km d'altitude. Et puis dans cette enceinte, dans cet aquarium où il faisait le vide, il a suspendu une sphère qui représente la Terre. Et dans la Terre, il a mis un aimant, parce que notre Terre, eh ben, elle est aimantée. Et puis il a pris une pile, une grosse pile, nous on appelle ça un générateur, parce qu'on aime bien les mots
pour
compliqués.
Pour remplacer le soleil alors.
Pour remplacer le soleil. Il a tiré de l'électricité sur la pile, et sur la sphère, sur la sphère aimantée. Et puis, parce qu'il a vu des aurores boréales qui apparaissaient, qui ressemblaient tout à fait à ce qu'on voyait sur Terre. Alors j'ai repris son concept, je l'ai un petit peu modifié, je l'ai un petit peu amélioré, de telle sorte que tout soit mobile, qu'on puisse voir beaucoup de mécanismes, qu'on puisse voir des mécanismes qui viennent d'étoiles, qui viennent de planètes, que lui n'avait pas pu voir il y a un siècle. En son hommage, j'ai appelé ça la Terella, parce qu'il avait appelé ça la Terella, mais comme ça montre beaucoup de mécanismes des planètes, alors j'ai rajouté planète devant et j'appelle ça la planète Terella.
Bah, c'est une planète Terella qui se balade un petit peu partout.
Bah, je l'ai dimensionnée pour qu'elle rentre dans le coffre de ma voiture. Si bien que je la montre maintenant, je l'ai montrée dans beaucoup d'écoles, de lycées du coin, dans beaucoup de clubs d'astronomes amateurs, dans des universités du troisième âge, et puis elle voyage un petit peu partout. Ce qui m'a fait plaisir, si je peux me permettre, quand j'ai reçu ce prix, on m'a attribué le prix parce que la manip tourne beaucoup, qu'elle a beaucoup de succès, mais aussi parce que on a voulu primer le fait que je la donne, cette manip. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'une université ou d'un musée, d'un service public, je donne les plans, puisque quand même ce qui coûte le plus cher, c'est le bureau d'études. Si bien que je donne les plans, j'aide les gens à en construire, je leur explique comment ça marche, et puis après ils peuvent la montrer. Si bien qu'il commence à y avoir des clones, alors il y en a un à Toulouse, il y en a deux à Paris, il va y en avoir un au Palais de la Découverte à Paris, il y en a un qui va être fait à Bruxelles, et puis un à Rome. Cet esprit-là de service public qui donne tout, qui partage les connaissances, c'est ça en fait qui a été primé avant tout.
Voilà, Jean Lilienstein avec nous sur France Bleu Isère jusqu'à 14h. Vous nous parlez des étoiles, des planètes, des aurores boréales. On vous retrouve juste après Fabienne Thibault, Le Monde et Stone sur France Bleu Isère.
Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu Isère. Et dès aujourd'hui, sur la compilation France Bleu.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. Thank you.
Le Monde Estonne, Fabienne Thibault sur France Bleu Isère. Et Alain Salomon, vous nous signalez une perturbation sur la route actuellement.
Oui, exactement, Michel. C'est l'AREA qui nous informe qu'a priori un accident se serait produit sur l'A48 quand vous quittez Grenoble en direction de Lyon. Accident qui s'est produit dans les environs de Vorep. Du coup, il y a un bouchon en amont de cet accident, donc en direction de Lyon. A priori, une seule voiture est impliquée dans l'accident. Les pompiers sont sur place, donc levez le pied, soyez prudents dans le secteur. Je rappelle que c'est sur l'A48 lorsque vous quittez Grenoble au niveau de Vorep et ça vous concerne si vous roulez en direction de Lyon.
Merci Alain. Et nous retrouvons notre invité aujourd'hui jusqu'à 14h. Nous sommes dans les étoiles avec Jean Lilienstein, astronome au laboratoire de planétologie de Grenoble. Jean, vous avez été récompensé par le premier prix d'Europlanète pour votre capacité à rendre accessible votre savoir au plus grand nombre. Spécialiste des aurores boréales, vous avez mis au point Planète Terella, un système expérimental qui les simule. Mais ces aurores boréales, eh bien, vous les voyez en vrai, Jean, et pour cela, vous vous rendez dans le Grand Nord, notamment en Laponie.
Pour les voir, il faut se rapprocher du pôle, pour les voir le plus souvent possible. Il faut se rapprocher du pôle magnétique. Chez nous, ça veut dire la Laponie, et puis encore plus haut, en latitude, un archipel rocheux qui s'appelle le Spitzberg, qui se trouve vers 80 degrés de latitude nord. C'est l'endroit habité le plus au nord de la planète. Sur ces endroits-là, on a des instruments scientifiques, on a des radars géophysiques qui observent l'atmosphère entre 100 km, 80 km et 500-600 km d'altitude. Et puis on a beaucoup d'instruments optiques, des petits télescopes.
Alors les aurores boréales, ça fait coller beaucoup d'encre depuis des siècles. Ça donne lieu à des légendes. Et notamment quand vous étiez en Laponie, une dame d'un certain âge d'ailleurs, n'aimait pas beaucoup les scientifiques d'ailleurs, vous lui enlevez ses rêves.
J'étais à la suite d'une campagne d'expérience, j'étais allé me promener, c'était sur les îles Lofoten, et je dormais dans des petites cabanes de pêcheurs. Et la femme d'un pêcheur était venue discuter avec moi, parce qu'il y avait une aurore, donc on regardait l'aurore tous les deux le soir, en dehors de sa petite cabane. Et elle m'a expliqué que quand elle était petite, on lui disait « Surtout, il ne faut pas que tu agites un mouchoir blanc, un tissu blanc en face de l'aurore, parce que l'aurore, c'est quelque chose de méchant, et ça va venir te prendre et ça va t'emmener en enfer. » Et donc, évidemment, le grand jeu des enfants à l'époque en Laponie, c'était d'agiter un mouchoir blanc face des aurores, et puis dès que l'aurore bougeait, vout, il courait au lit et puis se cachait la tête sous la couverture. Et elle m'a dit ça en me disant que c'était quand même un monde fantastique à l'époque, mais que maintenant, tous ces scientifiques, ils sont en train de tout expliquer et de faire exploser tous les rêves. Évidemment, je ne lui ai pas dit quel métier je faisais. Moi, je trouve que c'est encore plus beau de rêver quand on comprend l'univers et de rêver à l'univers en ayant une approche de compréhension plus grande.
Alors la Laponie, vous vous souvenez quand vous y êtes allé la première fois, Jean Lilienstein?
La Laponie, c'est un endroit très montagneux, là où on va, c'est un endroit très montagneux qui est fait de glace et de couleurs bleues l'hiver, de glace, de neige, de ciel très très froid. Mais c'est un endroit qui est encore très humain, très humanisé. Il y a des villes, il y a des routes, il y a des commerces. Évidemment, il y a beaucoup de nature sauvage. Ce qui est peut-être plus impressionnant encore, c'est le Spitzberg. Parce que quand vous arrivez sur l'îlot du Spitzberg en avion, hein, il y a des lignes régulières dans la capitale de Longyearbyen, on vous donne un petit dépliant sur lequel on voit un ours avec un gros ours blanc, parce que c'est l'endroit où habitent les ours blancs, avec la gueule pleine de sang et il est en train de dévorer un phoque.
Ouais.
Et ça, c'est très impressionnant. Et dessus, il y a marqué en gros « Attention, il attaque sans prévenir ». Et sans doute, le Spitzberg est plus impressionnant parce que là, la nature est très, très, très,
très sauvage.
À midi, il fait nuit comme à minuit en plein hiver. On ne voit pas de différence avec nos yeux. Il fait nuit 24 heures sur 24. Alors qu'en Laponie, il y a encore une petite lumière, une petite lueur autour de midi. Là, ce n'est pas du tout le cas et c'est très, très déphasant. Et puis on ne peut pas sortir vraiment sans être armé au Spitzberg parce que l'ours, effectivement, il est là et il attaque.
Oui, c'est... D'ailleurs, votre épouse n'aime pas tellement quand vous rendez là-bas.
Non.
Parce que vous y allez très régulièrement.
J'y vais tous les ans.
Oui.
J'y vais tous les ans. Et puis, comme j'y vais de plus en plus souvent, je suis allé prendre quelques cours de tir, mais je ne me sens pas capable de tirer sur un ours. Vous savez, quand on le voit, l'ours, il est trop tard pour nous, parce qu'on y va l'hiver, quand il fait donc nuit tout le temps. On le voit du coup quand il est à quelques dizaines de mètres et il faut être incroyablement rapide pour charger l'arme et tirer dessus. En plus, comme il est entouré de 40 à 80 cm de graisse, le plus probable c'est qu'on va tirer dans la graisse et que lui il va rien sentir, sauf que ça va l'énerver un peu plus. Donc c'est pas vraiment super marrant, il faut être un peu prudent. Et c'est difficile d'être prudent. Quand on arrive à l'aéroport, ils vous donnent des consignes. Mais en vérité, si on va faire nos manips, elles sont un peu en dehors de la petite ville, de la bourgade, qui est la capitale, Longyearbyen. Donc on fait quelques kilomètres en dehors. Et si on est pris dans une tempête de neige et qu'il faut pelleter, on sort de la voiture et puis on pelte. Et puis il y a le bruit du vent et puis il y a la neige qui nous aveugle. Et puis on voit à quelques mètres. Donc si on voit l'ours, en fait, il vous voit avant, il vous dévore. C'est
trop fini. Tard. Donc vous avez peur quand même de temps en temps, j'imagine.
J'ai peur avant de partir. Hein. Une fois qu'on est dans l'action, c'est plutôt drôle, quoi. Mais avant de partir, c'est un peu angoissant.
Alors, Spitzberg, c'est une base scientifique et une base touristique, en fait. Hein.
Voilà. Comme c'est un centre, c'est un archipel qui se trouve très au nord de la planète, avec des armes à moyenne portée, on peut facilement bombarder l'Europe ou les États-Unis ou la Russie. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été le lieu de batailles terribles, Spitzberg. Les grandes nations, après la Seconde Guerre mondiale, ont sagement décidé de réserver cette île à d'autres choses que des fins militaires, essentiellement la science et le tourisme.
Voilà. Et donc vous y allez régulièrement et vous y retournez là au mois de décembre ?
J'y retourne fin janvier pour des raisons de lune en fait. On a besoin qu'il n'y ait pas du tout de lune. Et là cette année ça tombe bien plutôt fin janvier.
Voilà, Jean Lidenstein, pour l'instant vous êtes avec nous sur France Bleu Isère jusqu'à 14h. Et on vous retrouve pour parler de votre parcours après Zaz, je veux sur France Bleu Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos
Je veux Zaz sur France Bleu Isère, ça réveille. Excellent après-midi en notre compagnie.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Et à mes côtés, Jean Lilienstein, astronome au labo de planétologie de Grenoble, spécialiste des aurores boréales. Il nous a emmenés au Spitzberg, en Laponie. On revient un petit peu ici, à Grenoble, dans nos studios. En marge de votre activité de chercheur, Jean, vous êtes fortement engagé dans le syndicalisme.
Oui, vous savez, j'ai l'impression que, d'une certaine façon, je suis un anti. J'ai un travail permanent, j'ai un salaire, j'ai un métier absolument fantastique qui me passionne complètement. Je voyage dans le monde entier. Et puis en plus, le public, beaucoup de gens dans le public, ils aiment l'astronomie et ils viennent écouter ce qu'on raconte. Et, ça. Enfin, et il me semble que c'est important, dans une situation comme ça, de se battre pour les gens qui ont moins de chance pour les précaires, pour les gens qui ont des difficultés.
Au sein du laboratoire.
Ils sont de plus en plus nombreux. Ouais. Depuis 20 ans que je fais de la recherche, que j'ai commencé ma thèse, j'ai assisté à une mutation de la recherche qui me bouleverse un peu. C'est-à-dire qu'en France, on avait et on a encore un des meilleurs instruments de recherche publique du monde. Le CNRS, il est connu dans le monde entier. Et partout, les gens nous envient, le CNRS. Quel que soit le domaine, parmi les plus forts du monde, il y a des gens du CNRS. C'est quand même incroyable, quoi. On a ce truc-là, quoi. Donc, la France a dépensé beaucoup de sous pour arriver là. C'est-à-dire que parmi les pays de l'OCDE, elle était parmi celles qui dépensaient le plus dans la recherche publique.
Et aujourd'hui, c'est celle qui dépense le moins.
Par contre, non, c'est pas tout à fait ça. C'est par contre, nos entreprises, pour des raisons probablement culturelles que je comprends pas bien, je suis pas du tout analyste économiste, nos entreprises dépensent beaucoup moins en moyenne pour la recherche que les autres entreprises de l'OCDE. Donc, il y avait deux voies possibles. Une voie, c'était favoriser la recherche privée en France. L'autre voie qui a été choisie par nos derniers gouvernements était plutôt de mettre le service public de recherche au service de la recherche privée et aussi militaire. Et ça, c'est un chiffre. C'est que à peu près 2/3 de l'investissement public de recherche est maintenant investi pour des recherches qui sont proposées par le privé ou par l'armée.
Des recherches finalisées.
Des recherches qu'on appelle finalisées. Typiquement, je sais pas, un constructeur automobile dit quel est le labo qui est capable de me faire un moteur qui durera plus longtemps ? Et les labos publics répondent à l'offre, reçoivent de l'argent. Le gouvernement paye évidemment les salaires, investit en plus un peu de fonctionnement dedans. Mais cette recherche-là, elle est finalisée, elle sert à quelque chose. La recherche que moi je fais, elle ne sert à rien, franchement. J'ai participé à découvrir des aurores boréales sur la planète Mars. Honnêtement, celui qui trouve une utilité autre que la satisfaction intellectuelle de savoir qu'il y a des aurores sur Mars, il mentirait s'il disait qu'il trouvait. En ce moment, on est en train d'essayer de trouver des aurores boréales sur les planètes en dehors du système solaire. Et essayer de caractériser
les exoplanètes.
Ouais. Essayer de caractériser comment ça peut nous apprendre des choses sur la vie, sur les autres planètes. Ça fait rêver absolument tout le monde, mais ça sert à rien, franchement, moins qu'un moteur qui tourne plus longtemps, quoi. Voilà, donc on a passé une mutation qui fait que d'une recherche essentiellement non finalisée, on est passé à une recherche finalisée. Et moi, dans mon état d'esprit de gamin de 11 ans, là, je suis encore Zorro dans ma tête, je me disais, mais non, c'est pas juste ça. Ce qui est juste, c'est qu'on aide l'industrie à faire ses efforts de recherche et puis que nous, on nous aide à continuer à être la meilleure recherche publique du monde.
Alors, et bientôt, vous avez un grand projet pour nous, ici en Isère, Jean Lilienstein, un opéra. Un opéra du monde.
Oui, avec mon ami Xavier Delfos de mon laboratoire et puis d'autres collègues, on a eu l'idée de monter un planétarium à Grenoble. Il en manque un, quoi. Et on s'est dit non, on va aller au-delà du planétarium. On va montrer au public tout ce qu'on sait faire dans ce qu'on appelle pompeusement les sciences de l'univers, le climat, la météo, la géologie, la sismique, l'astro, la planéto, tout ça, quoi. Et on va faire rêver le public. Et Pontclet nous a dit, nous ça marche, on le fait avec vous, mais faites-le avec des artistes. Et donc avec Pontclet, on est en train de monter ce qu'on appelle, pour le moment, c'est un nom provisoire, on trouvera plus joli, le Moulin Art Science. dont la partie scientifique, là c'est ma sœur qui a trouvé le nom, donc j'en suis très fier, c'est l'Opéra de l'Univers.
Oh, c'est magnifique, l'Opéra de l'Univers, donc c'est bientôt à Pont-de-Clay, Jean-Louis Lundstein.
Oui, on espère ouvrir en 2014 au grand public.
Voilà, vous allez tout nous expliquer, les aurores boréales, et on va pouvoir on peut d'ailleurs déjà voir les aurores boréales en allant sur notre site bleuisère.com qui renvoie à votre site Planète Terrella. Merci beaucoup Jean-Louis Lundstein d'avoir passé ce début d'après-midi avec nous. Demain, mon invité, Jean-Louis Perrin, il vient de publier un ouvrage sur cette fabuleuse entreprise Gand-Perrin Val Isère. Je vous retrouve donc dès demain, même heure.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Et tout de suite, Mathieu Soldano, qui est en studio. Mathieu Soldano, c'est vous qui assurez l'émission cette année-là. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez aujourd'hui, Mathieu?
Écoutez, ce que je vous promets, c'est de découvrir deux années à partir de 14h. Je peux vous donner peut-être quelques indices sur la première année, Michel?
Avec plaisir, les auditeurs attendent impatiemment.
Alors, justement, cette année-là, nous allons parler entre 14h et 15h d'Isabelle Blanc, qui revient avec une médaille d'or. C'était des Jeux Olympiques de Salt Lake City.
C'est difficile.
Ouais, c'est difficile à dire. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, cette année-là, c'est le moment de nous appeler pour découvrir cette année avec de jolis cadeaux à remporter. Il y a deux places de cinéma, un numéro de téléphone à composer, c'est le 04 76 46 45 45, 04 76 46 45 45. Et puis tiens, je vais vous donner encore un dernier indice. Sachez qu'au cinéma, on se laisse embarquer par la valse d'Amélie Poulain. De quelle année s'agit-il? 04 76 46 45 deux fois.
Merci Mathieu.
On cherche tous à consommer moins cher, mais nous voulons tous aussi consommer mieux.
Alors des escargots bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les élevez comment?
Bio, durable, équitable.
On a voulu un produit goûteux, gourmand.
Du lundi au vendredi à 7h10 et 10h40.
Tous les matins, on découvre les produits qui nous permettent de mieux consommer.
France Bleu Isère vous aide à devenir un consommateur citoyen.
Miam, miam.
Ouvrez la porte d'un restaurant, tout est là. Le serveur, le servi, le mangeur, le manger, le cru, le cuit, le vivant, le mort. Entrez dans les coulisses d'un restaurant où rien ne se perd et tout se mastique.
Miam, miam.
Passez à table et savourez. Miam, miam, de et avec Édouard Baird, ce vendredi et ce samedi à 20h30 au Théâtre de Grenoble avec France Bleu.
France Bleu Isère vous invite au concert à Grenoble. L'Orchestre des Pays de Savoie, en collaboration avec l'Orchestre de Chambre de Genève, présente notamment la symphonie numéro 2 de Brahms. La symphonie numéro 2 de Brahms, c'est un événement ce samedi 6 novembre à la MC2 de Grenoble.
Excellent après-midi sur France Bleu Isère. Dans un instant, Mathieu Soldano. France Bleu.